France Inter.
Aujourd'hui, Jurassique, l'âge d'or des dinosaures, raconté par
Ronan Alain, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
C'est une découverte à couper le souffle qui a eu lieu cet été dans une carrière de l'Oxfordshire en Angleterre. Tout commence en juin dernier lorsque Gary Johnson, un ouvrier utilisant une pelleteuse, remarque des bosses inhabituelles sur le sol. Ce qu'il pense être une simple curiosité géologique se révèle être bien plus extraordinaire. Alerté, des paléontologues des universités d'Oxford et de Birmingham se rendent sur place et confirment la mise au jour de près de 200 empreintes fossilisées de dinosaures vieilles de 166 millions d'années. Les empreintes laissées dans ce qui était autrefois un lagon d'eau chaude peu profond appartiennent à 5 espèces différentes de dinosaures, dont 4 herbivores, probablement des sauropodes, et un carnivore redoutable, le mégalosaure, le plus grand prédateur du Jurassique en Angleterre. Les traces dévoilent très nettement les 3 griffes du mastodonte. Ces traces d'herbivores et de carnivores, retrouvées proches les unes des autres, posent d'ailleurs la question d'une éventuelle cohabitation, voire d'une interaction entre ces différentes espèces de dinosaures. Ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle, c'est la longueur de certaines pistes d'empreintes. L'une d'elles s'étend sur 150 mètres, un record mondial rare qui lui a valu le surnom d'autoroute des dinosaures. Comment ces traces ont-elles pu traverser les âges et arriver jusqu'à nous? Les scientifiques suggèrent qu'une tempête aurait pu déposer des sédiments qui ont figé les empreintes dans la vase, mais la réponse définitive reste encore un mystère. Une centaine de chercheurs ont étudié la zone, collectant des données précieuses, notamment grâce à des drones et des modèles 3D, pour immortaliser ce trésor paléontologique. Pour Gary Johnson, cette découverte restera gravée à jamais dans sa mémoire. « J'ai réalisé, a-t-il déclaré, que j'étais la première personne à les voir, c'était surréaliste. » Les images de cette aventure seront dévoilées au grand public demain, 8 janvier, sur la BBC, dans une célèbre émission d'archéologie. Ces empreintes figées dans le temps depuis 166 millions d'années nous plongent au cœur d'une période considérée comme l'âge d'or des dinosaures, celle du Jurassique. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Ronan Alain.
Bonjour.
Elle est belle cette histoire d'autoroute de dinosaures, non ?
Elle est très belle, on connaît beaucoup d'empreintes déjà au Jurassique, mais on n'en avait pas en Angleterre, et surtout pas dans les formations calcaires. On a les mêmes formations en France, de l'autre côté, hein, les bâtonniens, je pense à Conteville, ça me ramène au début de ma carrière. et du coup, c'est vrai qu'on a souvent des fossiles, mais très rarement des empreintes. Donc là, on va pouvoir avoir les fossiles et les empreintes, essayer de faire un espèce de mélange de tout ça pour essayer de savoir si on peut retrouver les propriétaires des empreintes.
Ah ouais, justement, qu'est-ce que ça raconte alors, une découverte de cette nature ? Alors, que ça peut raconter ?
Ça peut raconter beaucoup de choses. C'est toujours très très difficile à interpréter les empreintes parce qu'effectivement, là, il y a plusieurs pistes. Alors, est-ce que les animaux sont passés en même temps ? Est-ce que les dinosaures carnivores étaient en train de suivre les sauropodes ? C'est toujours très très compliqué parce que des fois, il y a 6 mois, 7 mois entre le passage de 2 individus. Par contre, ça nous en apprend beaucoup sur la biomécanique, sur la vitesse que ces animaux pouvaient avoir. Ça nous dit quand même qu'ils vivaient dans le même écosystème, parce que même s'ils sont passés à 2 mois ou 3 mois d'intervalle, c'est des animaux qui partagent un même écosystème et donc qui vont partager les mêmes pistes, les mêmes autoroutes, pour reprendre le terme. Et donc, ça permet de vraiment de bien contraindre, j'ai envie de dire, les données paléo-environnementales à une époque, une époque donnée.
C'est une photographie quand même de cette époque du Jurassique, non ?
C'est une photographie parmi d'autres. Hein, il y en a d'autres. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a parlé de mégalosaures, 166 millions d'années, donc ça doit être pas loin de Stonesfield, dans l'Oxfordshire. Et Stonesfield, c'est le premier dinosaure qui a été nommé, Megalosaurus. On est en 1822, c'est M. Buckland qui le nomme. Et donc là, on a peut-être trouvé les empreintes de ce premier dinosaure. Donc aussi, au niveau historique, ça nous apporte pas mal de choses.
Ouais. Une telle préservation, ça reste exceptionnel aussi ? C'est un coup de chance extraordinaire ?
Alors, si l'environnement est un environnement de calcaire de lagon, c'est effectivement assez rare que les grosses empreintes soient préservées. Pour s'en rendre compte, il suffit de penser à ce qu'on fait nous. Si on marche dans un lagon, on va marcher dans le sable et l'empreinte va rester un petit peu, mais va vite être recouverte. Là, effectivement, les collègues ont l'air de suggérer qu'il y a une tempête rapidement qui a permis de recouvrir les empreintes très très vite et donc de les préserver. C'est pas tous les jours effectivement qu'on va retrouver ce type d'empreinte dans ce type d'environnement.
Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces traces, ces empreintes de dinosaures alors ?
Alors malheureusement, les empreintes de dinosaures, on sait qu'elles sont condamnées à disparaître une fois qu'elles sont découvertes parce que l'érosion va faire son œuvre et puis en plus c'est dans une carrière, donc peut-être qu'il y a une activité dans la carrière. Par contre, maintenant, on a quand même toutes les technologies qui nous permettent de tout sauver, donc des drones, je crois qu'ils ont pris 22 000 photos, donc j'imagine qu'ils ont fait de la photogrammétrie. Ouais. Ils auraient pu faire des scans aussi sur Facic pour garder les traces de ces empreintes et ils vont pouvoir après travailler sur ces données. Et puis enfin, j'imagine qu'ils vont faire des moulages des plus belles empreintes pour qu'on puisse les conserver et en avoir
une trace
dans les musées.
La paléoéchnologie, c'est ça ? C'est l'étude des traces, des empreintes ?
Paléoéchnologie, oui, c'est l'étude des empreintes. C'est une très vieille science, et puis c'est une science à part entière. Les collègues qui travaillent sur la paléoéchnologie ne font que ça, parce que justement, c'est pas évident à interpréter. Donc, il faut être très, très méticuleux. Il faut prendre beaucoup de données sur le terrain. Il faut bien regarder ce qu'on a sur le terrain. Il ne faut pas juste contenter de prendre une photo et de partir avec. Et du coup, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui arrivent à lire tel Sherlock Holmes. Et à vous donner qui est le coupable.
En tout cas, c'est une aventure, une découverte intéressante pour illustrer le sujet d'aujourd'hui qui concerne donc le Jurassique. Là, on est à 166 millions d'années avec ces empreintes. Qu'est-ce que ça représente dans la période globale du Jurassique ? On est où exactement ?
Alors, 166 millions d'années, c'est un étage qu'on appelle le bâtonien. Cet étage, il est dans un ensemble plus grand qu'on appelle le Jurassique moyen. Et le Jurassique moyen, comme son nom l'indique, c'est le milieu du Jurassique. Donc après, on va avoir le Jurassique inférieur, le Jurassique supérieur. Donc le Jurassique, ça commence il y a 200 millions d'années, ça se termine à peu près il y a 145 millions d'années. C'est une période assez extraordinaire parce que c'est une période de mutation à la fois pour la planète, mais aussi pour... parce que évidemment, les organismes vont suivre l'évolution de la planète, et donc aussi pour les organismes, et en particulier pour les dinosaures.
C'est ce qu'on va raconter, puisqu'on qualifie cette période d'âge d'or pour les dinosaures. Quelle est l'origine d'abord de ce nom Jurassique, qui nous renvoie quand même à la France ?
Alors, ça nous renvoie à la France, ça nous envoie au Jura, ça nous en renvoie au début de la stratigraphie, donc l'étude des strates.
Ouais.
Et ça nous renvoie à un géologue du muséum qui s'appelait Brongniart. Et Brongniart,
Alexandre,
de son prénom, qui a défini le terme jurassique, en fait, en référence aux roches qu'on trouvait dans le massif du Jura. Et donc, c'est lui qui a donné ce nom jurassique pour définir l'époque de ces roches-là.
Ouais.
Et ce nom est resté. Il y a beaucoup de noms qui ont été créés au début du 19e siècle, qu'on emploie toujours. Le terme Crétacé, c'est la même chose, le Trias aussi.
Donc, ça renvoie vers les roches et pas vers les dinosaures.
Et ça renvoie bien vers les roches. À l'époque de Brongniart, on n'a pas encore de dinosaures, puisque le terme va être forgé une vingtaine d'années plus tard.
Ouais.
On en connaît déjà certains restes, mais là, on est surtout sur une grande période avec ces énormes roches calcaires qu'on arrive à très bien différencier de celles du Crétacé, et donc que Brongniart va définir.
Et alors, les traces de dinosaures dans le Jura, pour le coup, ça arrive quand ?
Alors, les traces de dinosaures dans le Jura, ça va arriver plutôt à la fin du Jurassique, au Jurassique supérieur. On en connaît énormément du côté de la Suisse. On a Porrentruy, où il y a eu l'autoroute qui a été construite. En fait, a été construite sur des pistes de dinosaures. Donc, il y a eu un très, très gros travail pendant plusieurs années de référencement de toutes ces empreintes. On en a aussi de l'autre côté de la frontière, en France. On va en avoir du côté de Plagne, on va en avoir donc dans l'Ain, où on a des pistes qui étaient près de l'ordre de 80 mètres, je crois, avec des traces qui font quasiment un mètre de large.
Ouais, donc là, c'est encore des empreintes ?
Toujours des empreintes.
Ouais, mais des squelettes ?
Alors, les squelettes au Jurassique, enfin, dans le Jura, il n'y en a pas. Quasiment pas. Il y a des squelettes de dinosaures dans le Jura, mais il y a du Trias, pas du Jurassique.
Ouais, ouais.
Par contre, après, le Jurassique, ça nous ramène, si on veut aller en France, ça nous ramène en Normandie. Ça nous ramène au début de la paléontologie. Donc, ça va être depuis le Havre, on va aller jusqu'à... On va passer à Honfleur, on va passer à Villers-sur-Mer, on va passer aux falaises des Vaches Noires, on va aller jusqu'au calcaire de Caen dans le Calvados. Et là, il y a les premiers restes de dinosaures décrits en France par Cuvier, puis par Hutt des Longchamps, qui va décrire un animal qui s'appelle Poikilopleuron, c'est une découverte assez extraordinaire quand il la raconte. Et donc, c'est vraiment le début de la paléontologie des dinosaures.
Donc ça explique finalement qu'il n'y a pas une grande histoire de dinosaures autour du Jura, alors qu'on pourrait s'attendre précisément à ce qu'il y ait de grands spécimens qui incarnent cette période là-bas, mais on n'a pas trouvé beaucoup de squelettes.
Non, ouais, sur place dans le Jura, pas beaucoup de squelettes, des empreintes, mais pas beaucoup de squelettes. Mm-hmm. On a un squelette du côté de Damparis, qui s'appelle Vuivria, qu'on a redécrit avec un collègue anglais, il y a 7-8 ans. C'était un squelette qui avait été trouvé dans les années 30, dans une carrière, justement, qui était exploitée pour les calcaires. Mais c'est le seul, en fait, c'est le seul dinosaure Vuivria qui a été trouvé dans le Jura.
Renaud Alain, en 1993, arrive sur les écrans un film qui va changer la face du Jurassique.
C'est un dinosaure. Bienvenue à Jurassic Park.
1993, adapté du roman de Michael Crichton, publié en 90. Et c'est ce film et ce livre qui ont fait connaître mieux, en tout cas, ce terme de Jurassique. Non sans semer d'ailleurs la confusion, Renaud Alain, puisque les grands héros dinosaures du film de Spielberg ne datent pas du Jurassique.
Non, la plupart datent du Crétacé. Alors, pas tous, hein, quand même. On a quand même un brachiosaure, justement, qui est gigantesque. Mais c'est vrai que le plus gros méchant, entre guillemets, c'est le tyrannosaure. Donc, c'est la fin du Crétacé.
Donc, Crétacique Park serait des plus justes.
Ça aurait été Crétacéus Park, mais c'est super moche.
Ouais.
Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi Jurassique. Mais c'est vrai que derrière, il y a des Triceratops qui sont du Crétacé. Les Raptors sont Crétacé. Donc, la plupart des dinosaures qu'on voit dans Jurassique Park datent du Crétacé, même s'il y a quelques références à un ou deux dinosaures du Jurassique.
Est-ce qu'il faudrait tourner un vrai Jurassic Park à la française, selon vous ?
On pourrait tourner un Jurassic Park qui a largement de quoi faire, mais pas que en France. En fait, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que quand on parle d'âge d'or des dinosaures pour le Jurassique, c'est aussi un âge d'or. Ça s'explique aussi parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, parce qu'il y a beaucoup d'affleurements à travers le monde, et que ça soit en Asie, en Afrique, un petit peu moins peut-être en Amérique du Sud, mais par contre beaucoup en Amérique du Nord. On a des fossiles un petit peu partout, et on pourrait recréer un monde complètement jurassique sans aucune difficulté.
Qu'est-ce qui caractérise ces dinosaures du Jurassique ? On va évoquer des découvertes majeures. Et puis celle un petit peu plus tard aussi, puisqu'on va parler du Crétacé avec vous, qui ont été réalisées en Charente à Angeac, où vous menez vos fouilles avec vos équipes. Renaud Alain, vous êtes notre invité et vous répondrez aux messages qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Ce paysage grandiose, érodé par le temps, abrite un trésor à sa mesure. Une formidable quantité de fossiles de dinosaures. Sous la roche, des géants du Jurassique dorment ici depuis 150 millions d'années. Restes d'animaux cuirassés comme le stégosaure, sauropode géant, cousin du célèbre Diplodocus, et squelettes de leur prédateur carnivore, le redoutable allosaure, précurseur lointain du grand tyrannosaure. Tous ces fossiles contribue à changer notre regard sur le Jurassique, l'âge d'or des dinosaures.
Extrait d'un documentaire diffusé sur France Télévisions l'année dernière, des fouilles dans le Jurassic Mile au Wyoming. Renan Alain, vous êtes paléontologue. Je vous voyais hocher de la tête pendant qu'on écoutait cet extrait. Qu'est-ce qui vous a heurté ?
Non, c'est le lien entre le tyrannosaure et l'allosaure. Il est loin d'être direct. Il n'y a pas vraiment de lien de parenté entre ces deux dinosaures.
On parle de cette période du Jurassique qui fait d'ailleurs l'objet d'une expérience immersive en ce moment au Jardin des Plantes à Paris. C'est dans le cadre d'un festival en voie d'illumination sur lequel vous avez travaillé. D'ailleurs, vous donnez votre avis scientifique pour qu'il n'y ait pas trop d'erreurs.
On essaye de travailler un peu pour trouver les images les plus scientifiquement plausibles pour tout un tas d'animaux, hein, puisque ça va des micro-fossiles jusqu'aux grands dinosaures.
Ouais.
Donc il y a toute une équipe du CR2P qui s'est occupée de ça. Et puis après, on fait... c'est une espèce de lanterne. Hein. Donc les gens vont pouvoir regarder ces animaux-là qui sont illuminés la nuit. C'est assez spectaculaire et il y a des animaux qui sont très bien connus, en fait, dont on a des squelettes complets, ou donc on est très bien l'anatomie, rendent vraiment très très bien.
Donc ce sont des structures lumineuses monumentales pour certaines, hein, qui sont à voir encore jusqu'au 19 janvier au jardin des plantes à Paris. On parle donc avec vous des dinosaures du Jurassique, et d'abord de cette période particulière, hein. On le disait tout à l'heure, 200 millions à 145 millions d'années. Juste avant, il y avait le Trias, et il y a une période charnière, Trias Jurassique, tout à fait particulière, parce que là, il y a une grosse crise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Alors, ouais, c'est Le Jurassique, c'est le passage d'un monde en renouveau qui est le Trias à un monde qui va ressembler déjà au monde moderne qui va être le Crétacé. Donc le Jurassique, c'est un intermédiaire entre les deux. On sait que vers 230 millions d'années, il y a tout un tas de groupes d'animaux qu'on connaît très bien, bon, les dinosaures, mais aussi les tortues, les crocodiles, les mammifères qui apparaissent. Ils apparaissent, mais ils ne sont pas très diversifiés. Tous les dinosaures se ressemblent plus ou moins, il n'y a que deux grands groupes.
Donc là, on est au Trias.
Et puis arrive la fin du Trias, et là, effectivement, il y a cet épisode assez important dans l'histoire de la Terre qui va être l'ouverture de l'Atlantique, l'ouverture de l'Atlantique centrale. Et donc, il va y avoir la formation d'une énorme province magmatique qu'on appelle le camp pour Central Atlantic Magmatic Province. Et donc, ça se passe au milieu, ça se passe grosso modo entre, on va dire, le Maroc et la Caroline du Nord. Hein. Donc, on est... L'Atlantique Nord central s'ouvre, il y a cette province magmatique qui arrive, et évidemment, avec des épanchements qui sont assez considérables, et on va voir un bouleversement climatique, des changements complets de végétation, et on a donc une extinction. Alors, c'est une extinction qu'on connaît mal, parce qu'en fait...
La cause, c'est celle dont vous parlez là, précisément,
La seule cause possible, c'est ça, en fait. Il n'y a rien d'autre. On n'a pas d'autres événements terrestres à l'échelle globale qui permettent d'expliquer cette extinction. Mais du coup, cette extinction, elle se produit sur du long terme. Elle n'arrive pas en... C'est pas comme la fin du Crétacé, où il y a les trappes du Deccan, plus la météorite, qui vont rapidement éradiquer 75% des espèces. À la fin du Trias, c'est beaucoup plus compliqué, et les animaux va y avoir plusieurs turnovers, en fait. Mais la cause principale, c'est vraiment ça, c'est l'ouverture de l'Atlantique. Et ça se poursuit, en fait. Ça se poursuit parce qu'on va avoir, après, les premiers étages du Jurassique. On va avoir 2-3 étages où les faunes, par exemple, de dinosaures, restent les mêmes que celles du Trias. Et à ce moment-là, l'Atlantique s'ouvre aussi. Enfin, c'est pas l'Atlantique, c'est l'océan Indien qui va s'ouvrir en plein sud. Donc, on était au nord, on passe l'équateur, et là, on a la dislocation du Gondwana qui commence aussi. Et on va voir. Le Gondwana, c'est Amérique du Sud, Afrique, Inde, Australie, Antarctique.
Donc c'est quoi ? C'est un super
continent ? C'est un super continent. Et là, on va avoir l'Antarctique et l'Australie qui commencent à s'ouvrir. Et on a une deuxième province magmatique qui apparaît, qu'on appelle la province de Carou-Ferrare. Et là aussi, on a des épanchements. Et là aussi, on a une extinction. Alors, une extinction un peu plus mineure, hein, pas de premier ordre. Mais après cette extinction, par contre, ce qu'on voit, c'est une diversification de tous les groupes qui étaient apparus au Trias.
C'est pour ça qu'on parle de l'âge d'or des dinosaures aussi,
et
à ce moment-là.
Et l'âge d'or commence vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître, en fait, toutes les faunes de dinosaures qu'on va retrouver à la fin du Jurassique au Crétacé, mais aussi, par exemple, on va voir apparaître l'ancêtre de tous les mammifères modernes. C'est à cette époque-là, vers 180-175 millions d'années.
Et il ressemble à quoi, l'ancêtre des mammifères modernes ?
Il ne ressemble pas à grand-chose. On sait qu'il apparaît à ce moment-là, mais on n'a pas les fossiles. On a surtout essentiellement des dents à cette époque-là.
Ouais. Et donc, cette diversité des dinosaures, on l'explique pourquoi, en réalité ? Parce qu'il y a des conditions favorables, environnementales favorables, pour que s'épanouissent de nouvelles espèces, par exemple ?
On passe d'un monde avec un continent unique, hein, qu'on appelait la Pangée, donc là qui est en train de se disloquer, d'abord entre continent du Nord et du Sud avec l'ouverture de l'Atlantique, donc entre l'Eurasie au Nord et Gondwana au Sud, puis après le Gondwana commence à se fragmenter, l'océan Tétis, l'océan unique, continue à s'enfoncer depuis l'Est vers l'Ouest, vers l'Atlantique justement, et tout ça, ça crée... des ensembles continentaux qui sont beaucoup plus découpés. On sait aujourd'hui que les pics de biodiversité souvent se trouvent sur les bordures des continents. Hein. C'est l'interface mer-terre qui est favorable à la biodiversité. Et bah, du coup, là, cette biodiversité, elle va pouvoir augmenter. Et puis, il y a des changements climatiques. Donc, qui dit changement climatique va dire qu'on va avoir...
De quel ordre ?
Réchauffement
ou refroidissement ?
On va avoir un petit réchauffement. On a au Jurassique, il faut savoir que la température est supérieure de 5 à 10 degrés par rapport à la température actuelle. On a des taux de CO2 dans l'atmosphère qui sont 4 fois supérieurs à ce qu'on a dans la nature actuelle. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes environnements. Et donc voilà, c'est vraiment ce découpage, ces nouveaux écosystèmes qui sont en train de se former. Il n'y a plus ces déserts qu'on trouve au milieu de la Pangée. Donc tout ça, ça fait des environnements qui peuvent être colonisés par les animaux et par les dinosaures. Et donc on va voir les dinosaures qui vont justement essaimer sur toute la planète. Et on va commencer à avoir un petit peu d'endémisme à certains endroits et puis des nouvelles espèces qui apparaissent.
Renaud Alain, si on imagine le Jura précisément du Jurassique à cette époque, à quoi ça ressemble ? Alors on n'a pas de montagne à ce moment-là ? On est dans un climat tropical ?
Alors, on est dans un climat tropical. Si on regarde l'Europe à cette époque-là, elle est baignée par une mer donc, qui s'appelle la Tétis, mais l'Europe est un archipel. Et les terres émergées sont celles des anciennes montagnes. Donc, ça va être le massif armoricain, la Bretagne, ça va être le massif central, ça va être aussi la péninsule ibérique. Donc là, on a des îles, on a ces îles-là au niveau de cette mer Tétis, et ces îles sont colonisées aussi par des dinosaures. Mais il y a des fluctuations du niveau marin. Et ces fluctuations du niveau marin, de temps en temps, quand ça baisse, il y a possibilité de faire passer les dinosaures d'une île à l'autre et de faire passer les dinosaures finalement depuis l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe jusqu'à l'Afrique. Et en fait, on a une certaine continuité des faunes entre ces trois continents. Ce n'est pas les mêmes espèces, mais c'est des espèces très très proches. En tout cas, c'est les mêmes familles de dinosaures qu'on va retrouver.
Donc on est plus dans un environnement de lagon, hein, ce dont on parlait pour l'Angleterre tout à l'heure avec cette autoroute de traces d'empreintes là.
Et on serait en République dominicaine quasiment aujourd'hui, donc avec des îles de plus ou moins grande taille et avec beaucoup de lagons, des lagons qui sont très intéressants pour les paléontologues parce que c'est des endroits privilégiés pour conserver des fossiles extraordinaires comme l'Archéoptérix.
Mais est-ce qu'il faut faire attention à ne pas vouloir donner qu'une seule image du Jurassique, parce qu'il y a aussi une diversité entre 200 millions d'années et 145 millions d'années, il se passe quand même beaucoup de choses, donc c'est à contraster aussi, j'imagine.
C'est évidemment, les faunes de dinosaures évoluent, ce que je disais au début du Jurassique, donc on va dire entre 200 et 180 millions d'années, il y a deux groupes de dinosaures. Il y a ce qu'on appelle des prosauropodes, donc on n'a pas encore les sauropodes, on est sur des animaux qui sont herbivores, qui ont déjà un cou qui est très allongé, ils sont toujours bipèdes, ils ne sont pas encore quadrupèdes, et les carnivores sont représentés simplement par des tout petits dinosaures, hein. C'est ce qu'on appelle la famille des Coelophysidae, mais il n'y a pas de grands dinosaures carnivores. Et à partir de 180-70 millions d'années, là on va voir apparaître les groupes comme les stégosaures, les sauropodes, les vrais sauropodes qui deviennent des animaux gigantesques, on va voir apparaître du coup les premiers grands carnivores, on a parlé des mégalosaures tout à l'heure. On va voir aussi apparaître les premiers ornithopodes. Donc la diversité vraiment se met en place, mais voilà, c'est jamais en une million d'années, c'est des millions d'années, et il y a différents environnements qui sont propices à cette diversité-là et qui vont faire qu'on va avoir des adaptations différentes selon les groupes de dinosaures considérés.
Parce que c'est vrai qu'on reste toujours très marqué par les tailles spectaculaires, mais ça n'est pas que ça non plus, le monde des dinosaures au Jurassique, hein.
Ah non, c'est pas que ça.
Ce n'est pas qu'un monde de sauropodes.
Non, c'est pas qu'un monde de sauropodes et de gros dinosaures carnivores assoiffés de sang. Évidemment, on a des animaux de très très petite taille. On a même des sauropodes nains. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'insularité. À la fin du Jurassique, en Europe, en Allemagne en particulier, on a décrit un sauropode qui s'appelle Europasaurus. Et c'est vraiment un nain par rapport à tous les autres sauropodes. Et ça, c'est un phénomène de nanisme insulaire qu'on connaît
quand
plutôt bien.
Quand vous dites nain, c'est quoi comme taille?
Il doit faire 5-6 mètres.
Ouais.
Mais quand on est à 25 mètres avec un diplodocus, c'est vraiment un nain. Voilà. Et donc ça, c'est des phénomènes de nanisme insulaire qu'on connaît très très bien chez tout un tas d'organismes différents. On a eu des éléphants nains en Méditerranée, on connaît ça. Et ça se produit aussi chez les dinosaures, et donc on a des animaux de très petite taille.
Renan Alain, au pays du Jurassique, c'est le dossier aujourd'hui de la Terre au Carré. Avec vos messages, vos questions pour parler paléontologie cet après-midi, vous nous rejoignez sur franceinter.fr à la page de la Terre au Carré.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Renan Alain, paléontologue, pour nous parler du Jurassique, mais pas seulement, on va faire un petit détour vers le Crétacé avec vous dans un instant. Encore un petit mot, Renan Alain, sur les différentes transformations au moment du Jurassique. On parlait évidemment beaucoup des dinosaures. Il y a aussi de quoi dire sur les reptiles marins, sur les premiers mammifères où l'a fait, mais aussi sur les oiseaux quand même.
Alors les oiseaux qui sont des dinosaures, mais effectivement, quand je parlais tout à l'heure de cette grande diversification des animaux pendant le Jurassique, au moment où apparaissent le groupe de tous les mammifères actuels, il y a aussi celui des oiseaux qui apparaît, hein, puisqu'on a les premiers oiseaux vers à peu près 160 millions d'années.
Les premiers oiseaux, c'est 160 millions d'années.
Ça va être vers 160 millions d'années. On a Archéoptérix.
Il n'y a pas d'oiseaux avant dans le ciel.
Il y a des ptérosaures, donc alors voilà, il y a toute la diversité des reptiles qui est là. Il va y avoir les reptiles volants, les fameux ptérosaures qui sont en plein boom à cette époque-là, qui sont pas justement encore concurrencés par les oiseaux. Donc il y a des petits ptérosaures, alors qu'à la fin du Crétacé, il y aura plus que de très très grands ptérosaures. Les ptérosaures étaient déjà sur le déclin. Et dans les océans, c'est pareil. On va avoir tous les reptiles marins. On va avoir les plésiosaures, les pliosaures, les ichthyosaures qui sont là depuis déjà très très longtemps. Et on a aussi, qu'on oublie souvent, c'est les crocodiles, parce qu'il y a des crocodiles marins à cette époque, ce qu'on n'a plus aujourd'hui dans la nature. C'est aussi un âge d'or incroyable, le Jurassique et le début du Crétacé.
Et on a des trucs maus costauds, là, aussi
On a, chez les pliosaures, on peut aller sur des animaux qui font jusqu'à 13 mètres de long aussi, hein, donc 13 mètres de long avec des mâchoires qui sont gigantesques. Chez les plésiosaures, on va avoir des animaux qui ont des coups incroyablement allongés. Mm-hmm. Et chez les crocodiles, on a même des crocodiles, les sténéosaures, qui vont perdre quasiment leurs membres, qui sont exclusivement adaptés à une vie aquatique et marine.
Et l'archéoptérix, on peut en dire peut-être un petit mot, un des animaux quand même symbole de la fin du Jurassique.
C'est le symbole de la fin du Jurassique. C'est le premier oiseau qu'on considère, en fait. Hein, son statut n'a pas changé. Mmh. C'est lui qui nous montre que déjà à cette époque, on a des oiseaux qui sont sur plusieurs continents. On a d'autres oiseaux qui ont été découverts depuis en Chine en particulier. Mais on a vraiment cette radiation adaptative des oiseaux qui commence à cette époque-là, à la fin du Jurassique, et qui va continuer pendant tout le Crétacé jusqu'à la disparition de tous les dinosaures, excepté des oiseaux.
Et un site qui vous tient particulièrement à cœur pour faire la transition entre le Jurassique et le Crétacé, c'est celui d'Angeac en Charente.
C'est l'image estivale du chantier de fouilles archéologiques d'Angeac. Pieds et mains dans la boue, sous le soleil, comme ici, en juillet dernier.
Les terrains fossilifères, les terrains à dinosaures sont repérés. On pense que dans les 15 ans à venir, il y a de très belles découvertes.
Des découvertes et parfois des surprises, des raretés même, comme celle de l'été dernier.
Il s'agissait non pas du grand dinosaure qu'on a l'habitude de trouver, le thuriasaure, mais d'un autre dinosaure. Ce dinosaure, il est bien connu, quelques millions d'années avant, en Amérique du Nord. D'où l'étonnement des paléontologues.
Votre collègue Jean-François Tournepiche, paléontologue, donc autour du site d'Angeac. Renan, Alain, c'est votre terrain de jeu, ça, hein, en Charente?
Ah, c'est le terrain de jeu estival, ouais. C'est 3 semaines ou 4 semaines par an.
Et ça fait combien de temps que ça existe, le site d'Angeac?
2010, on a commencé, et là, avec les découvertes qu'on a faites l'année dernière, et ce qu'on a encore comme terrain, on en a encore au moins pour une dizaine d'années.
Chaque année, vous faites de nouvelles découvertes, et pas des moindres, hein?
Chaque année, il y a des nouvelles découvertes. On s'amuse chaque année à donner. Alors, cette année, c'est l'année du stégosaure. Cette année, c'est l'année du sauropode. Chaque année, je fais un espèce de petit listing des choses que j'aimerais bien trouver, en restant dans quelque chose de plausible.
Votre wishing list.
C'est ça, j'ai ma wishing list. Et cette année, j'avais une wishing list. Ils ne l'ont pas du tout respectée. Et alors, par contre, les fouilleurs. Les fouilleurs, les carriers, enfin, tous les gens qui interviennent sur le site. Et cette année, c'était quelque chose qu'on attendait, mais vraiment, vraiment pas du tout. On avait déjà beaucoup de restes de sauropodes, des fémurs de 2 mètres. Mmh. On avait un sauropode qu'on commence à bien connaître, donc ce fameux thuriasaure. Et là, on a commencé à trouver des restes d'un nouveau sauropode. Première chose, tout de suite, on se rend compte que les os sont proches les uns des autres, qui sont en surface, et que donc il s'agit probablement d'un seul spécimen, donc le premier squelette presque quasiment articulé qu'on va trouver en Jacques. Donc déjà, l'excitation monte. Et puis rapidement, on commence à sortir des dents, et les dents n'ont rien à voir avec celles de notre thuriasaure. Et par contre, c'est des dents qui sont un petit peu spatulées, si je puis dire. Et ces dents spatulées, on les connaît effectivement chez un dinosaure qui est très connu en Amérique du Nord, qu'on appelle le Camarasaurus. Et donc là, ça fait tilt, on commence à regarder les autres os, et puis tout a l'air de coller, donc on a un Camarasaure. Et qui est juste au-dessus de son cousin du thuriasaure, puisqu'on a même retrouvé les os des thuriasaures, des camarasaures, plus ou moins imbriqués les uns dans les autres. Donc voilà, on ne s'attendait pas à trouver un deuxième sauropode sur une aussi petite surface. Donc c'est un sauropode, c'est un grand quadrupède herbivore.
Et on peut estimer sa taille ou pas?
C'est un petit peu tôt, il doit être un peu plus petit que le thuriasaure, il devait être entre 15 et 20 mètres de long. Mmh. On devrait en savoir plus. Là, on est en train de le préparer activement, hein, depuis le mois de juillet. On a un plâtre au muséum là, qui est en train d'être fouillé méticuleusement. Mmh. Il y a 4 vertèbres dedans qui font 1 mètre de large par vertèbre.
Donc, quand vous retournez au bureau, en fait, vous allez fouiller votre sauropode.
Comme on ne peut pas toujours gratouiller pendant le mois de juillet, on gratouille aussi pendant l'hiver. Et avec le chauffage à côté, c'est vraiment parfait.
Ouais.
Et à côté de ça, on a les collègues qui sont à Angoulême, qui eux, on leur a laissé l'autre partie du squelette. Donc là, ils sont en train de travailler sur le bassin qui va être aussi complètement reconstitué. Donc au mois de juillet, on va avoir des belles choses à montrer.
Donc vos fouilleurs, ils ont bien fait de ne pas respecter votre wishing list, parce qu'ils n'auraient probablement pas trouvé ce sauropode, si je comprends bien, non?
Oui, de toute façon, les fouilleurs respectent à peu près jamais ce qu'on leur dit. C'est le principe même
du... Petit message personnel.
C'est à peu près le principe de la fouille. Mais non, voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. On espérait peut-être du stégosaure. Et on va avoir la suite, surtout cet été.
Pourquoi il est exceptionnel, ce fossile?
Parce que c'est un des rares sauropodes qui est quasiment articulé qu'on a en France, parce qu'il est très très complet. quand on aura fini, on a déjà des os du crâne, on a des membres, on a du bassin. Donc c'est.
Vous aurez le corps entier, a priori.
On n'aura peut-être pas entier, mais on va l'avoir à plus de 50-60%, parce que les os sont magnifiquement préservés. Donc en fait, il va être beaucoup, beaucoup plus facile à travailler, à étudier que les autres dinosaures d'Anjac, puisque toutes les pièces en plus sont regroupées.
Mais alors, on le situe où, lui ? Dans le Jurassique ou dans le Crétacé, alors ?
Alors le problème est là, c'est que l'intérêt aussi, évidemment, est scientifique, parce que les camarasaures, pour l'instant, sont connus qu'au Jurassique. Donc ça fait une nouveauté. C'est le premier camarasaure découvert au Crétacé. Mmh. Mais ça revient sur quelque chose qu'on a déjà soulevé à Anjac, c'est qu'à Anjac, la faune, que ce soit les tortues, les crocodiles, les mammifères ou les dinosaures, hein, ça fait plus de 40 espèces de vertébrés, tous ces animaux ont un cachet qui est très jurassique. Ça ressemble plus à une faune du Jurassique qu'à une faune du Crétacé. Et donc ça ramène à une, pas une vieille histoire, mais à une... pas non plus un controverse, mais un débat actuellement qui a lieu en particulier chez les stratigraphes et qui consisterait à savoir où est-ce qu'on met la limite entre le Jurassique et le Crétacé. Parce que autant la limite entre le Trias et le Jurassique, elle est très bien définie, autant la limite entre le Jurassique et le Crétacé ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de consensus. Et donc, d'un point de vue international, on est en train de réfléchir là-dessus et moi, avec mon apport de paléontologue qui travaille sur les continents, pour moi, le Berriasien ressemble plus à un étage jurassique à un étage du Crétacé.
Ce qui nous arrange bien pour le dossier d'aujourd'hui.
Ce qui nous arrange bien et puis qui permet de parler d'Anjac.
Allez, on va répondre aux questions parce qu'elles sont nombreuses. Karine demande sur franceinter.fr, qu'est-ce qui définit un dinosaure, Ronan Alain, tout simplement ?
Une posture érigée, c'est-à-dire que ses membres sont bien verticaux. On pense toujours que la bipédie a été inventée par l'homme, mais la bipédie a été inventée par les dinosaures. Les premiers dinosaures, il y a 235 millions d'années, étaient bipèdes et avaient les pattes bien verticales sous leur corps.
Gabriel aimerait avoir des explications sur l'aspect gigantisme de ces bestioles dont on a parlé, comme les sauropodes par exemple, ou le T-Rex, mais il n'y a pas que ça. Hein. Mais si on parle vraiment du gigantisme, qu'est-ce qui explique tout ça ?
Métabolisme donc les dinosaures sont pas des animaux à sang chaud à proprement parler comme les mammifères. Par contre, ils sont tellement grands que on a l'impression d'avoir des animaux homéothermes, c'est-à-dire qu'ils gardent une température constante, mais ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie que les mammifères et du coup, ils peuvent atteindre des tailles beaucoup plus importantes. Là où les mammifères vont pas excéder la taille, on va dire d'un éléphant, même dans le registre fossile, les reptiles vont pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin et donc développer des animaux de très grande taille.
Et si ces animaux n'avaient pas disparu, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'ils poursuivent leur agrandissement ou pas ?
Alors,
leur croissance ?
Il y a une limite physique à tout, donc je ne sais pas si on a atteint la limite des plus grands dinosaures, mais on commence à plafonner un petit peu, on a des animaux qui font à peu près une trentaine de mètres pour, on va dire, 50-60 tonnes. On n'arrive pas vraiment à passer au-delà maintenant, donc je pense qu'on a atteint les limites. Par contre, ils auraient continué à évoluer, oui c'est sûr, parce que les sauropodes qu'on va trouver à la fin du Crétacé et ceux du Jurassique n'ont strictement rien à voir.
Et pour des individus herbivores, hein, pour les sauropodes. Hein,
donc et pour des individus
herbivores. C'est impressionnant d'atteindre de telles tailles en étant herbivores. Hein.
C'est ça, c'est des herbivores, mais aussi c'est des herbivores qui perdent pas de temps à mâcher leur nourriture, hein, puisqu'il n'y a pas de dents qui sont... Il n'y a pas d'hétérodontie, il n'y a pas de molaires chez un dinosaure. Toutes les dents sont pareilles, les dents sont là simplement pour arracher la nourriture, l'avaler tout de suite, et les dinosaures ne vont pas perdre de temps, contrairement par exemple à des mammifères ou à des vaches, à mâcher leur nourriture. Eux, ils avalent tout cru et ils peuvent passer à la parcelle suivante pour aller chercher leurs végétaux.
Anissa se pose une question au sujet des oiseaux et autres volatiles d'aujourd'hui, sont-ils des descendants des dinosaures, Ronan Alain ?
Toujours, là ça fait depuis maintenant 96 qu'on a trouvé ces dinosaures à plumes en Chine, et donc le débat sur l'origine dinosaurienne des oiseaux est clos, il n'a pas du tout été relancé, il a même été confirmé maintenant par les analyses moléculaires, puisqu'on sait que les plus proches parents d'un point de vue des phylogénies moléculaires des oiseaux, ce sont les crocodiles, donc on a vraiment confirmé cet état.
Louvard demande si l'astéroïde qui a percuté le Yucatan il y a 65 millions d'années, à l'origine de la disparition des dinosaures, alors non aviaires, du coup, il faut le préciser à chaque fois, est-il à l'origine de l'ouverture de l'Atlantique par fracture de la croûte terrestre ?
Non, l'ouverture de l'Atlantique est bien antérieure à 66 millions d'années, hein, puisque l'Atlantique Nord, donc l'Atlantique Central, s'ouvre au début du Jurassique, on l'a dit. Et l'Atlantique, la séparation entre l'Amérique du Sud et l'Afrique se fait à peu près à la fin du Crétacé inférieur, donc vers les 120 millions d'années.
Merci beaucoup Renaud Alain. Donc vous retournez gratter votre sauropode, c'est ça ?
C'est ça, je vais aller gratter quelques vertèbres.
C'est votre quotidien de paléontologue. Merci beaucoup d'être venu dans la Terre au Carré. On peut aller au Jardin des Plantes à Paris dans le cadre du festival En Voie d'Illumination. C'est jusqu'au 19 janvier pour voir des dinosaures. Merci à Nama Sardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier.